Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors vous le disiez hier, Brice, des dirigeants populistes sont au pouvoir dans de très grands pays, les États-Unis, le Brésil, les Philippines, mais aussi des plus petits comme la Hongrie et la Pologne.
Oui, et d'après les calculs de l'ancien ministre des Finances du Chili, Andrés Velasco, 1 milliard de personnes à travers le monde vivent sous de tels régimes. Quant aux causes de ce qui est devenu donc un phénomène de masse, les politologues se répartissent en gros en deux camps. Ceux qui pensent qu'elles sont essentiellement économiques, ces causes, et ceux qui pensent qu'elles sont d'abord culturelles. Dans un article tout récent mis en ligne sur le site Project Syndicate, que je citerai de moins en moins parce qu'il est en train de devenir payant, figurez-vous. Donc sur Project Syndicate, donc Barry Eichengreen, un professeur d'économie à Berkeley, examine ces deux hypothèses. Que le populisme soit la conséquence d'un appauvrissement des classes moyennes traditionnelles, c'est une réalité dans le cas de l'Italie. La productivité de ce pays stagne depuis 20 ans, le chômage des jeunes y est dramatique. En outre, les partis traditionnels ont commis l'erreur d'en réformer le système électoral en y introduisant des mécanismes de primes majoritaires destinés à favoriser les partis engagés dans des alliances. Eh bien, ils n'imaginaient pas que les partis populistes, l'un vaguement de gauche 5 étoiles et l'autre néo-fasciste, la Ligue, parviendraient à former eux-mêmes une coalition gouvernementale et qu'ils se serviraient des institutions imaginées pour leur barrer l'accès au pouvoir. Mais dans le cas du Brésil, la population avait vite pris l'habitude de considérer la croissance rapide comme un phénomène définitif. Elle a très mal pris la récession de 2015-2016. Andrés Velasco va plus loin. Je le cite, « Dans ce pays, le populisme n'est pas le produit des difficultés financières des gens, écrit-il, il est le produit de leur enrichissement. » Fin de citation. Il est rejoint dans cette analyse par Shannon O'Neill, un spécialiste de l'Amérique latine au Council on Foreign Relations. Je le cite. Durant la première décennie du 21e siècle, environ 70 millions de personnes en Amérique latine, dont 40 millions au Brésil seulement, sont sorties de la pauvreté. Alors qu'elles n'avaient plus à lutter au jour le jour pour nourrir leur famille, beaucoup sont devenus du même coup imposables. Or, le manque de services de base, l'injustice du système et l'absence de réponse concrète des responsables de l'État à toute demande n'émanant pas des élites ont creusé un fossé entre eux et les gouvernants. Et c'est ce fossé que des politiciens populistes ont su exploiter. Fin de citation. C'est pourquoi ce sont presque toujours des populistes de droite et non de gauche qui l'emportent à la fin, même si ceux de gauche leur servent parfois de marchepied. De droite, parce qu'ils promettent la baisse des taxes et des impôts, comme Trump et Bolsonaro. Et j'ajoute que ces leaders populistes se moquent de la transition énergétique. Ce n'est pas un hasard si Trump et Bolsonaro mettent carrément en doute le fait même du réchauffement climatique. Leur électorat s'en moque. Il veut du pétrole bon marché et que la déforestation continue en Amazonie.
Et puis rappelons, Brice, que l'Amérique latine, c'est le continent où a été inventé le populisme, avec des personnages comme Vargas au Brésil, comme Juan Perón en Argentine.
Oui, la vague populiste qui submerge actuellement l'Amérique latine, c'est un retour aux sources, selon Shannon O'Neill. Mais si Bolsonaro et Trump ont bien des points communs, il existe aussi un facteur plus spécifique au sous-continent, à ce renouveau populiste. C'est la violence omniprésente, la criminalité, les gangs, le fait que dans tant de villes d'Amérique centrale et latine, on ne puisse plus sortir le soir ni laisser les enfants jouer dans la rue. Ce qui a permis à Jair Bolsonaro, mais aussi à Manuel López Obrador, de remporter les élections, l'un au Brésil, l'autre au Mexique, c'est leur engagement à ne plus tolérer l'insécurité physique de la population, de s'attaquer aux mafias qui, je cite, « truquent le système au détriment des petites gens ». Mais ces appels à la fin de l'impunité, à l'état de droit et à la justice, n'ont pu se faire jour justement que parce que ces électeurs sont moins pauvres et plus éduqués. Certains des très pauvres vivent ou plutôt survivent de la criminalité et les autres, hélas, sont habitués très jeunes à faire avec. Mais cette révolte contre le crime vient aussi de la société civile qui a commencé à s'organiser, au fait que des journalistes courageux ont enquêté sur les cartels et les gangs, qu'ils ont osé publier le résultat de leurs enquêtes. Si, de ce côté, ça a bougé très vite, il n'en a pas été de même du côté de la justice. Ses lenteurs, sa timidité, son apparente incapacité à mettre hors d'état de nuire les pires délinquants ont exaspéré les petites gens. Et là-dessus aussi, les populistes ont fait leur chou gras. Et cela leur donne des arguments pour s'attaquer à la justice quand elle essaie précisément de limiter leur pouvoir de populiste. Oui, la vague populiste continue à balayer les démocraties, même celles qui paraissaient le plus solidement établies. Il faut savoir raison garder plutôt que d'appeler à l'émeute pour faire les malins. Les comparaisons internationales ont certes leurs limites, mais elles peuvent nous être très utiles ici.